France Culture, Le Grand Tour, Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Boulogne-Billancourt, précisément au musée départemental Albert Kahn. Alors c'est un musée très singulier, un de mes préférés à vrai dire, dans lequel on peut voir non seulement tous ces autochromes, ces traces du monde entier qu'a fait faire le banquier philanthrope Albert Kahn, mais également des expositions temporaires. Alors justement aujourd'hui s'ouvre celle de la saison consacrée à la nature, au jardin, qui était une des grandes préoccupations d'Albert Kahn, en plus des voyages autour du monde. Je vous propose d'aller rencontrer la directrice du lieu et la commissaire d'exposition qui nous attendent pour cette visite. Bonjour.
Bonjour, bienvenue au musée départemental Albert Kahn. Je suis Nathalie Doury, la directrice du musée.
Alors avant de commencer à visiter cette exposition temporaire qui ouvre ces jours-ci, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Albert Kahn et quel est l'objectif de ce musée ?
Alors effectivement, le musée est tout entier consacré à l'œuvre d'Albert Kahn, un banquier et philanthrope français, né en 1860, mort en 1940 à Boulogne, et qui a consacré sa vie et sa fortune au financement d'un projet d'influence à destination des élites de son temps, qui visait à promouvoir un esprit universaliste, à orienter la gouvernance mondiale en direction de la paix et du progrès universel.
Donc rien que ça. Projet, quoi. Mais il le fait grâce à un moyen artistique, en tout cas aujourd'hui on le considérait comme artistique, ou de reporter, c'est-à-dire par l'image.
Alors il le fait en fait en combinant un certain nombre d'outils. Il va créer des fondations donc, qui vont permettre de mettre la conversation du temps sur les sujets qui l'intéressent, en particulier le premier projet qui est les bourses autour du monde, qui vise à doter des jeunes agrégés de bourses de voyage, et des jeunes agrégés puisque les bourses de voyage Albert Kahn sont ouvertes aux femmes à partir de 1905. Il va également promouvoir une forme de connaissance du monde et des cultures du monde autour des archives de la planète, qui est un projet d'inventaire visuel de la diversité mondiale autour du XXe siècle, en réalité dans les 30 premières années du XXe siècle, puisque pendant 20 ans, il va financer des opérateurs, caméramen et photographes qui vont arpenter le monde pour le décrire, pour en capter tous les aspects dont la disparition inéluctable, dit Kahn, n'est plus qu'une question de temps.
Et il avait raison.
À partir du premier procédé couleur, qui est le procédé autochrome, photographique couleur, qui est le procédé autochrome des Frères Lumière.
Pourriez-nous rappeler ce qu'est un autochrome ?
Alors, une autochrome, puisqu'il s'agit d'une plaque, une plaque de projection, donc qui était destinée à être projetée, montrée, traversée par la lumière. C'est d'ailleurs un des principes de présentation que vous allez voir décliner dans l'ensemble du musée, et qui comporte une couche photographique argentique, et puis une émulsion fabriquée à base de fécule de pommes de terre, de grains de fécule de pommes de terre colorées, qui donne à la fois cette couleur incroyablement vivante, mais aussi une forme de douceur et de velouté qui est très caractéristique de l'autochrome.
Combien il y a d'autochromes à peu près conservés ici ?
On a 72 000 autochromes, donc c'est la première collection d'autochromes du monde. La deuxième, c'est celle du National Geographic, qui en compte la moitié.
Bonjour, je suis Luce Lebar, je suis commissaire générale de l'exposition Nature vivante, imaginaire des jardins Albert Kahn.
On vient d'entrer dans l'exposition au premier étage du musée, et c'est un film qui nous accueille.
On est accueilli en effet par un film en noir et blanc où l'on voit des visiteurs des années 20 qui arrivent vers nous par un petit sentier et qui progressivement, par le côté droit de l'image, sortent de l'écran, semblent sortir de l'écran pour rentrer eux-mêmes dans l'exposition.
Donc là, comment vous avez construit l'exposition ? Vous avez été fouiné parmi les dizaines de milliers d'autochromes, ceux qui parlaient du jardin, ceux qui montraient le jardin ?
En fait, j'ai découvert ces images alors que je travaillais en immersion dans l'ensemble du corpus d'images d'Albert Kahn, donc c'est plus de 73 000 autochromes, en préparant le petit guide du musée qui est paru chez Gallimard pour l'ouverture en 2022. Et c'est à ce moment-là que parmi toutes ces images des archives de la planète qui montrent le monde entier, je suis régulièrement tombée sur des images différentes, des plantes, toutes sortes de plantes, y compris des plantes exotiques, prises de près, pris à différents intervalles de temps, pris à différents moments de la journée, avec des variations de conditions atmosphériques, avec des variations de couleurs, une façon de représenter en couleurs les plantes, jamais vue dans l'histoire de la photographie.
Mais est-ce que ça, c'était une volonté d'Albert Kahn? On l'a dit avec la directrice, il a envoyé des opérateurs un peu partout. Est-ce que pour lui, ça a été une de ses recommandations?
Alors, ce dont on s'est aperçu en préparant cette exposition, c'est qu'en réalité, quand Albert Kahn, en 1909, au retour de son tour du monde, il décide d'embaucher un photographe, c'est pour photographier son jardin. Et c'est ce photographe qui va envoyer ensuite en première mission en France et en Scandinavie.
Alors, est-ce que vous pourriez nous emmener devant deux ou trois œuvres qui vous semblent caractéristiques de cette exposition?
Alors ici, on arrive à un endroit que j'adore, dans lequel on a rassemblé des agaves. Les agaves, ce sont ces plantes qui ne fleurissent qu'une fois tous les 7 ans et qui, lorsqu'elles fleurissent, meurent ensuite. Et puis on les voit aussi, ces agaves ici, photographiées à tout moment de la journée, en fin de journée, le matin tôt, avec des ciels de tourment, des ciels tourmentés. Et là, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les opérateurs, ils osent des plongées, des contre-plongées, des prises de vue expérimentales.
Oui, audacieuses.
Et audacieuses, exactement. Des images sombres, des images, des contre-jours aussi, des jeux de contre-jours très graphiques.
Entre tout ce que vous dites sur le mouvement, sur la lumière, là, sur les différents moments de la journée, on pense quand même au travail des impressionnistes. Il y a quand même un lien assez fort entre eux, ce qu'ils ont essayé de faire en peinture, et puis là, ce travail photographique-là.
Alors, il y a eu des rapprochements qui ont été faits, effectivement, avec les impressionnistes, notamment aussi à cause de la matière même de l'autochrome, qui est faite de fécule de pommes de terre teintées, donc de plein de petits points. Si on les agrandit, ce qu'on verra juste après, si on agrandit un autochrome, on voit en effet, on a l'impression qu'on est sur du pointillisme. Mmh. L'image que moi j'aime énormément, qui ici, vous voyez, elle est un petit peu monochrome, c'est un rhododendron, un portrait de rhododendron. Elle n'est pas très colorée. Au musée, on les appelle des images athées, ça veut dire à terminer. Pour développer un autochrome, il fallait 6 étapes de développement. Certains n'ont pas été développés, ils sont dans cet état-là. Qu'est-ce qui est merveilleux dans cette image, si vous regardez? C'est un rhododendron aux fleurs fanées. Les opérateurs d'Albert Kahn photographiaient les plantes dans tous leurs états et pas seulement leur verte nouveauté. Alors vous avez vu, la scénographie ici change. Elle commence dans l'obscurité. On commence l'exposition dans l'obscurité pour petit à petit aller vers la lumière et aller à la rencontre du jardin à travers les grandes baies vitrées de Kengo Kuma, où là, on va trouver des œuvres qui ont été créées spécifiquement pour l'exposition, par des artistes invités en résidence et dont les œuvres, là, vraiment dialoguent avec le jardin, en vis-à-vis avec lui. Ici, dans cette vitrine, des pièces réalisées par Christophe Rankin, un artiste belge, qui, lui, est allé avec les jardiniers dans le jardin ramasser des baies de sureau, ramasser des branches d'épicéa, qu'il a transformé, brûlé, des branches mortes évidemment, pour fabriquer du charbon d'un côté et puis du jus de baie sauvage de l'autre. Et avec ces deux matériaux, il a fabriqué ces images.
Les images qui sont juste à côté, dans la vitrine d'à côté.
Voilà. C'est un artiste activiste. C'est un artiste qui cherche à faire une photographie qui soit durable et qui soit non nocive pour l'environnement. On montre aussi ici une image qu'il a fait donc avec les baies de sureau, mais c'est ce qu'on appelle un anthotype, c'est un procédé aux fleurs, de anthos en grec qui veut dire fleur. C'est un procédé qui renvoie au tout début de la photographie, quand la photo était en noir et blanc, était monochrome, elle n'avait pas de couleur. Sir John Herschel, un des inventeurs, en 1842, il a l'idée, pour faire de la photo en couleur, parce que ça manque la couleur, il a l'idée d'utiliser des jus de fleurs. Et il bâtit ce procédé, l'anthotype. Il n'a pas eu de postérité vraiment. Pourquoi? Parce que, en fait, ça ne se conserve pas. C'est des images qui ne durent pas. C'est des images qui...
Ah, la couleur s'en va?
Et oui. Le colorant, avec la lumière, s'efface.
Mais aujourd'hui, photographie couleur éphémère.
Exactement. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui, justement, intéresse des artistes contemporains pour lesquels la question de la durabilité d'une image n'est pas forcément... ce qui motive leur pratique, et bien au contraire.
Et cette exposition, on peut venir la voir jusqu'à quand ?
Le 31 décembre 2024.
Ah, on a un peu de temps alors devant nous. Mais c'est beau de la voir au printemps, on vient de le dire, avec ce jardin magnifique juste à côté.
Tout à fait, je pense que c'est une exposition qui va être belle à toutes les saisons.
Merci beaucoup pour cette visite.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je vous emmène au musée Grévin pour assister à la préparation de la statue de cire du baron Pierre de Coubertin. JO oblige.
Merci Marie et à demain.